di ore.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition de jeudi 4 avril 2024. En Côte d'Ivoire, l'opposant en exil Guillaume Soro affirme avoir parlé au téléphone avec le président Alassane Ouattara. Au Sénégal, en attendant le nouveau gouvernement, le président Bassirou Diomaye Faye annonce des réformes, notamment un audit du secteur pétrolier, gazier et minier. Le Rwanda commémore à partir de dimanche le génocide des Tutsis qui a fait 800 000 morts.
Nous avons bien compris le régime du génocide. Au départ, c'est une idéologie négative propagée par des dirigeants. Nous sommes prêts à lutter contre des idéologies similaires, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde.
Retour sur cette page sombre de l'histoire du Rwanda dans la partie magazine. En Afrique du Sud, la présidente démissionnaire du Parlement, Nosiwe Mapisa Nkakula, inculpée pour corruption. L'OTAN a fêté ce jeudi ses 75 ans d'existence, plus que jamais préoccupé par l'Ukraine et par son unité. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Eco pour l'instant le journal. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis 2019, indique avoir échangé au téléphone avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire. Il a fait savoir dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux ce jeudi, le point avec Nani Talani.
Guillaume Soro affirme avoir téléphoné en mars au président Alassane Ouattara pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple Solidaire, Kone Souleymane. Les échanges ont été marqués par la cordialité, assure l'ancien chef de la primature ivoirienne. Il dit maintenir sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire et demeurer ouvert au dialogue. Selon l'entourage de M. Soro, il s'agit du premier échange direct entre les deux hommes depuis près de 5 ans. Sollicité, la présidence ivoirienne n'était pas immédiatement disponible ce matin pour une réaction. Ex-chef rebelle, puis premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est brouillé avec Alassane Ouattara en 2019, année de son départ en exil. Il a été condamné en 2020 en son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire, puis à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis fin 2023, il se trouve entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Au Togo, 4 partis d'opposition et groupes de la société civile ont appelé ce jeudi à 3 jours de manifestation pour protester contre le report des élections législatives et régionales dans un contexte de tensions politiques croissantes depuis l'adoption d'une nouvelle constitution à la fin du mois de mars. L'ADI, l'ANC, le FDR, le PSR et une organisation de la société civile, le FCTD, appellent les populations à les rejoindre pour une grande manifestation de protestation les 11, 12 et 13 avril dans une déclaration rendue publique aujourd'hui et demande aux candidats de poursuivre la campagne sur toute l'étendue du territoire national togolais. Le gouvernement du régime militaire nigérien a convoqué ce mercredi l'ambassadeur d'Algérie à Niamey pour protester contre le caractère violent des opérations de refoulement de milliers de migrants ouest-africains par l'Algérie vers le Niger, selon un communiqué et selon les autorités de Niamey. Alger a intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement et de refoulement de migrants subsahariens en situation irrégulière. Le Sénégal fête aujourd'hui, 4 avril, le 64e anniversaire de son indépendance et à cette occasion, le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé hier soir le traditionnel discours à la nation. Création d'emplois, lutte contre la corruption et audit des compagnies minières sont autant de thèmes que M. Faye a abordé. Claire Morin-Gibou.
Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a tout d'abord mis en avant la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise. Le changement de notre pays s'est déroulé dans le calme, montrant la force de nos institutions, s'est-il félicité. Nous célébrons notre liberté retrouvée, a-t-il ajouté sans autre précision. Après avoir rendu hommage à ses prédécesseurs, M. Faye a dit sa confiance et sa reconnaissance aux forces armées, affirmant que la stabilité était essentielle au développement du pays. La jeunesse reste au centre des préoccupations du nouveau président. L'emploi des jeunes et des femmes sera une des priorités majeures de sa politique publique. Monsieur Fay a aussi annoncé que des mesures fortes seront prises dans les prochains jours concernant la vie chère. Enfin, une bonne gouvernance économique et financière avec une lutte sans répit contre la corruption est une autre de ses priorités. Le président Fay a déclaré que son gouvernement allait procéder à un audit des secteurs pétroliers, gaziers et miniers du pays. Une annonce qui fait suite à une promesse électorale de renégocier les termes des contrats pétroliers, gaziers et miniers avec les opérateurs étrangers. Le Sénégal devrait commencer à produire du pétrole et du gaz en 2024.
En Afrique du Sud, après sa démission hier de la présidence du Parlement, Nosiwe Mapisa Nkakula a été inculpé ce jeudi de 13 chefs de corruption et blanchiment. Cette inculpation intervient à moins de 2 mois d'élections cruciales pour l'ANC au pouvoir, dont elle est une figure. Yakuba Ouedraogo.
Nosiwe Mapisa Nkakula, nommé à la tête du Parlement en 2021, a été présentée à un tribunal de Pretoria ce jeudi. Quelques heures plus tôt, elle a été arrêtée après s'être présentée d'elle-même dans un commissariat au sud de Pretoria. Selon le parquet, elle est inculpée de 12 chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent. Son avocat a demandé et obtenu qu'elle soit mise en liberté sous caution. L'ancienne présidente du Parlement est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes d'un contractant militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense de 2014 à 2021. Après une perquisition à son domicile il y a un peu plus de 2 semaines, Mme Mapisa Nkakula avait déposé une requête en urgence pour ne pas se retrouver en détention, invoquant des preuves minces rassemblées contre elle. Mais ce recours a été rejeté mardi par la justice. Hier mercredi, elle a démissionné de la présidence du Parlement, rejetant toutefois l'idée d'un aveu de culpabilité. Le tribunal a indiqué qu'il réexaminerait ce dossier le 4 juin. Madame Mapisa Nkakula est membre du comité exécutif national de l'ANC. Cette affaire survient alors que les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui désignera le prochain président.
La Somalie a expulsé aujourd'hui l'ambassadeur d'Éthiopie et fermé 2 consulats de ce pays qu'elle accuse d'interférer dans ses affaires intérieures. Cette annonce intervient également au lendemain de la réception au ministère éthiopien des Affaires étrangères d'une délégation de la région semi-autonome du Puntland qui a annoncé dimanche ne plus reconnaître les institutions de l'État fédéral après que le Parlement somalien a adopté le passage à un régime présidentiel. Au Kenya, c'est toujours l'impasse dans les discussions pour mettre un terme à la grève que les médecins observent depuis le 13 mars. Aujourd'hui, l'unique syndicat de médecins a rejeté une proposition du gouvernement. Un tribunal du travail de Nairobi a donné hier 14 jours aux grévistes et au ministère de la Santé pour parvenir à un accord. Les médecins réclament des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants américains Joe Biden et israélien Benjamin Netanyahu doivent discuter aujourd'hui au téléphone après l'indignation de Washington face à la mort d'humanitaires tués par une frappe israélienne dans la bande de Gaza, enclave ravagée par la guerre entre Israël et le Hamas. Leur dernière conversation remonte au 18 mars. L'OTAN fête ce jeudi ses 75 ans d'existence. Cet anniversaire survient au moment où les incertitudes relatives à l'engagement américain en Europe augmentent. Mohamed Oumfa.
Née le 4 avril 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est plus grande, plus forte et plus unie que jamais. S'est félicité son secrétaire général Jens Stoltenberg lors d'une cérémonie marquant cet anniversaire au siège de l'OTAN. Il s'est néanmoins montré inquiet pour l'avenir, conjurant dans son discours les États-Unis à rester proches de leurs alliés européens. Je crois à l'Amérique et à l'Europe ensemble dans l'OTAN parce que nous sommes plus forts et plus en sécurité ensemble, a-t-il lancé. Avec l'OTAN, les États-Unis ont plus d'amis et plus d'alliés que n'importe quelle autre puissance dans le monde, a-t-il ajouté. La perspective d'un retour à la Maison-Blanche de l'ancien président Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre inquiète les alliés européens qui redoutent un désengagement américain en Europe et un arrêt du soutien des États-Unis à l'Ukraine en guerre. Cette guerre, malheureusement, pourrait être la plus grande des batailles de l'OTAN, a déclaré le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis. Nous devons être préparés à cela, car sinon, ce serait la plus grosse erreur que nous puissions jamais faire, a-t-il averti.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée aujourd'hui en Chine pour une visite durant laquelle elle évoquera notamment les subventions chinoises dans le soleil, les voitures électriques et les batteries qui inquiétent les États-Unis. Et puis les Koweïtiens votent ce jeudi pour élire le premier parlement du règne de l'émir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lors des troisièmes élections législatives en trois ans dans ce riche État pétrolier du Golfe englué dans des crises politiques à répétition. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En visite en Côte d'Ivoire, le président italien Sergio Mattarella a rencontré hier son homologue Alassane Ouattara pour évoquer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Eni a démarré fin août avec la compagnie ivoirienne Petrosi la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine qui pourrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour. Monsieur Mattarella visite ce jeudi les activités de la station de pompage de gisement Baleine. Lors d'une réunion à Lomé cette semaine, les ministres de l'énergie du Togo, du Bénin, du Ghana et du Nigeria ont élaboré des stratégies d'approvisionnement en gaz pour combler le déficit énergétique de la sous-région. Milin Aziablé, ministre délégué en charge de l'énergie au Togo, a rappelé que le défaut d'approvisionnement engendre des coûts de production d'électricité très élevés. L'objectif est donc de renforcer l'approvisionnement en gaz naturel au profit des centrales thermiques. En Guinée, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a lancé une mise en garde sur des activités commerciales et d'exploitation frauduleuse de terminaux Starlink pour l'accès Internet par satellite, indique un communiqué du 3 avril. Starlink, qui n'a pas encore obtenu l'autorisation d'opérer dans le pays, veut y lancer ses activités l'année prochaine. Les Guinéens ont subi pendant trois mois des restrictions de l'accès Internet.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La Fédération camerounaise de football juge illégale la nomination du sélectionneur de l'équipe nationale.
Oui, dans une lettre adressée hier au ministre des Sports, Samuel Etoffis, président de l'AFECAFOOT, dénonce ce qu'il qualifie de nomination illégale du Belge Marc Brice comme sélectionneur par le ministère des Sports mardi. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire, s'insurge l'ancien international camerounais. Il ajoute que la Fédération regrette ne pas avoir été associée ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures pour le nouveau poste de sélectionneur des Lions Indomptables et de son équipe, ce qu'elle considère en contradiction avec le décret présidentiel portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, qui précise que la gestion sportive des sélections relève de la compétence de la FECAFOOT. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal.
Demain vendredi se joue le match aller du dernier qualificatif aux Jeux Olympiques 2024, foot féminin, zone Afrique.
La Zambie et le Maroc s'affrontent au stade Levi Mwanawas à Ndola. Les Marocaines sont arrivées hier soir en Zambie en septembre dernier. Lions de l'Atlas et Zambiennes se sont affrontés à deux reprises, deux matchs perdus par les Marocaines 2-0 et 6-2. Conséquence, leur sélectionneur Reynald Pedros avait été viré et remplacé par José Vilda, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, vainqueur du dernier mondial féminin. Dans l'autre match aller, gros choc à venir entre le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Ici en NBA, Boston s'assure du meilleur bilan en fin de saison.
Les Boston Celtics ont marqué les esprits avec une large victoire face à l'ambitieux Thunder d'Oklahoma City 135-100. La franchise du Massachusetts en tête à l'Est s'est ainsi assurée du meilleur bilan en fin de saison. 60 victoires, 16 défaites et 6 matchs à jouer. Les Celtics auront donc l'avantage du terrain pendant tous les playoffs jusqu'à une éventuelle finale NBA. Oklahoma City est désormais troisième à l'Ouest, juste derrière le champion Denver. À corriger les Toronto Raptors 133-85. Les Milwaukee Bucks ont perdu pour la deuxième fois en deux jours à domicile contre Memphis 111-101. Les Pistons, pire équipe de la saison, ont tout de même perdu à Atlanta 121-113. Orlando a enchaîné un troisième succès du rang. Chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 117-108.
Les Pélicans ont perdu pour la quatrième fois en cinq matchs et laissé leur sixième place à l'Ouest, la dernière qui permet d'éviter les barrages au Phoenix Suns, vainqueur face à Cleveland, 122-101.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Rwanda s'apprête à commémorer pour la 30e année consécutive le génocide commis contre les Tutsis. Comment vivent les rescapés aujourd'hui? Comment l'histoire du génocide est-elle perçue par les jeunes qui sont nés après? De Kigali, le récit de Jean Damascène Manishimwe.
Les préparatifs s'accélèrent au site mémorial du génocide de Gisozi à Kigali pour débuter la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Avec ces travaux, les mouvements de visiteurs du mémorial ne s'arrêtent pas. Parmi eux, des jeunes. Même s'ils sont nés après le génocide, ces derniers sont bien conscients du rôle à jouer dans la construction des Rwandas nouveaux.
Nous avons bien compris l'origine du génocide. Au départ, c'est une idéologie négative propagée par des dirigeants. Nous sommes prêts à lutter contre des idéologies similaires, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde.
Cette histoire nous apprend que nous devons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Ces gens ont été massacrés devant la passivité de la communauté internationale. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui ont arrêté ce carnage.
L'histoire du génocide des Tutsis attire aussi des étrangers, comme ce touriste américain rencontré au site mémorial de Kigali. Il estime que le monde doit beaucoup apprendre de la commémoration du génocide.
Chaque peuple formant une nation et chaque gouvernement doit comprendre ce qui a permis à un tel génocide de se produire. Il faut éviter les discours de haine et une presse incendiaire parce que la presse a été utilisée ici au Rwanda. Il faut aussi soigner l'éducation, éviter la haine, la corruption, la division et la séparation des gens en groupe.
Aujourd'hui, les rescapés ont opté pour la résilience, même s'ils restent confrontés à certains défis. C'est ce qu'indique le président de la principale association des rescapés du génocide.
Ce sont deux défis que nous sommes en train d'affronter. C'est la question de la santé, aussi la santé physique que mentale, et d'autant plus que plus le temps avance. On remarque que ceux qui pouvaient marcher, qui pouvaient essayer de travailler, et il y a peut-être des maladies qui n'étaient pas sensibles, avec l'âge, ils commencent à tomber dans une situation de vulnérabilité tout à fait visible.
30 ans après le génocide, le Rwanda se félicite d'un pas franchi vers la réconciliation, même si le chemin reste encore long. Emmanuel Séhéné est un journaliste passionné pour la justice au Rwanda.
Aujourd'hui, quand on va sur les collines, on voit des villages de réconciliation qui ont poussé comme ça. Sur les collines aujourd'hui, 30 ans après, vraiment, les gens sont ensemble, même si, comme étant un processus, je parle de réconciliation.
Au Rwanda, la période de commémoration du génocide s'étend sur 3 mois, un rappel des 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsis en 1994. Jean-Thomas Selimani Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le prix du cacao a connu une hausse de 50% pour la saison intermédiaire 2023-2024. Le prix au kilogramme est donc fixé à 1500 francs CFA, soit 2,4 dollars contre 1000 francs CFA l'année dernière. Le gouvernement ivoirien a décidé de fixer ce prix compte tenu de la tendance haussière de la fève sur le marché boursier de Londres. De quoi réjouir les cacaoculteurs qui vivent depuis un moment dans un état de précarité. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenio.
Loin d'Abidjan et de ses folklores, les producteurs de cacao ivoiriens sont parfois laissés à eux-mêmes. Ils sont plus de 50% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. La vente du cacao ne se déroule pas comme ils espèrent et les réformes entreprises par le gouvernement ivoirien ne les aident pas à joindre les deux bouts. Enoch Dia, producteur de cacao.
Souvent aussi, nous qui sommes aussi éloignés dans les petits campements, souvent aussi quand tu vas aller vendre ton cacao, ils vont te dire que le cacao n'est pas encore bien sec et quelques trucs, donc tu ne peux pas avoir le prix forcément qu'on a fixé par l'État. Donc il faut que souvent l'État aussi envoie des agents dans les petites contrées aussi pour qu'on puisse surveiller, pour que vraiment le prix soit appliqué.
Pour régler ce problème, le gouvernement ivoirien a décidé de subventionner les producteurs à un prix fixe plancher de 1000 francs CFA. Malgré cette allocation, les producteurs n'arrivent toujours pas à bien vendre leur cacao. L'augmentation de 50% vient donc comme une bouffée d'oxygène. Kobenan Adjoumani, ministre de l'Agriculture.
C'est un niveau de prix jamais réalisé dans l'histoire de la filière cacao en Côte d'Ivoire. C'est aussi la première fois que le prix de la campagne intermédiaire est supérieur à celui de la campagne principale.
Cette nouvelle augmentation est surtout due à la hausse du prix du cacao sur le marché de Londres et de New York. Le tarif a atteint 5874 et 5386 $ la tonne. C'est deux fois plus cher qu'il y a 18 mois. Une tendance haussière qui pourrait rechuter néanmoins. Moutiou Adibi Mourou, journaliste économique.
C'est une mesure exceptionnelle. Et parce que voilà, justement, les cours sur le marché international sont en train de flamber. Mais après, certainement, ces cours-là vont redescendre en raison du système de la Côte d'Ivoire, du système de répartition des prix.
En Côte d'Ivoire, le prix au kilogramme du cacao fait souvent l'objet de polémiques en raison de sa dépendance aux marchés mondiaux. Les producteurs ivoiriens reprochent au Conseil Café Cacao de ne pas bien réguler le secteur, ce qui les plonge dans la précarité. Avec ce nouveau prix, le secteur pourrait toutefois connaître une période d'accalmie. Ange Bijoun-Omeyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, le président de la Fédération de football, Samuel Eto'o, a écrit au ministre des Sports mercredi pour dénoncer la nomination du Belge Marc Brice comme sélectionneur par le ministère des Sports, selon un courrier rendu public. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations, effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire, s'insurge l'ancien international camerounais, ajoutant que la FECAFOOT regrette de ne pas avoir été associée au processus de présélection des candidatures pour le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables et de son équipe. Yacouba Ouedraogo a joint à Yaoundé l'analyste Valère Bessala.
Moi, je crois pas qu'il devrait avoir un gros griot, puisqu'en fait, les textes sont tout à fait clairs. Le ministre est dans son bon droit de nommer le staff technique, à l'exception, je crois, d'un seul cadre qui relèverait de la compétence de la FECAFOOT, notamment le coordonnateur des équipes nationales. Il y a la convention ministère FECAFOOT qui est en fait comme un texte d'application du décret de 2014. Et dans cette convention ministère, la seule autorité qui doit consulter l'autre avant de prendre une décision sur le choix du staff, c'est la FECAFOOT. Article 9 alinéa 1, c'est-à-dire que la FECAFOOT, avant de contractualiser un entraîneur, doit requérir préalablement l'avis du ministère. Maintenant, le ministère, lorsque lui décide de mettre à la disposition de la FECAFOOT son staff, il n'a pas une obligation de consultation. Le texte ne le dit pas. Donc il n'y a pas de polémique à faire dessus.
D'aucuns parlent de règlement de comptes entre le ministre des Sports, Moëlle Kombi, et Samuel Etofis, président de la FECAFOOT, en reconduisant par exemple l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT viré par Eto.
Si vous dites déjà règlement de comptes, ça veut dire grands intérêts. Et si vous dites grands intérêts, ça veut dire intérêts égoïstes. Et donc si on décide de gérer la chose publique, puisqu'il s'agit d'argent, sur la base des intérêts privés, on ne va arriver qu'à cette affaire de règlement de compte. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut décider de régler votre compte alors que vous êtes là pour travailler pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt général. Donc d'un côté comme de l'autre, je crois qu'il y a forcément des affaires privées, des intérêts égoïstes, ce qui fait que désormais, quand on ne s'est pas entendu, ça ne peut arriver qu'à ce genre de choses-là. Si vous respectez les textes, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut se retrouver dans ce genre de conflit d'intérêts.
Le Cameroun sort d'une piètre élimination en huitième de finale lors de la dernière CAN. Il y a les éliminatoires pour le Mondial 2026 dès le mois de juin prochain. Pendant que tout cela se passe au niveau de la FECAFOOT, on se demande
quand est-ce le Cameroun va sortir de cet imbroglio-là?
Nous croyons en fait qu'il y a davantage de relents politiques en dessous de cet imbroglio. Vous savez que le Cameroun, l'année prochaine, devra aller à l'élection présidentielle avec l'élection sénégalaise qui s'est déroulée où on voit de plus en plus de jeunes arriver au pouvoir en Afrique. Ce problème, c'est qu'on a utilisé le sport pendant près de 3 années déjà, depuis que ce monsieur est à la tête de la fédération, pour distraire les Camerounais de l'objectif politique final, c'est-à-dire le changement de système, le changement de régime. Donc, quand on l'utilisait pour l'amener à l'Africa Foot, bon, je crois qu'ils étaient tous d'accord pour qu'il vienne. Lui-même, il était très content de devenir président de l'Africa Foot. Mais maintenant que les enjeux politiques s'approchent, sa popularité devient une menace pour le pouvoir politique et comme aussi sa personnalité un peu sulfureuse sur les bornes ne lui a pas permis d'être toujours lucide dans sa façon de gérer.
C'était l'analyste Valère Bessala à Yaoundé.
Alexandrine Follon avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Rwanda commémore le 30e anniversaire du début du génocide de 1994. Plus de 800 000 personnes sont mortes durant les massacres selon l'ONU. Ces dernières années, plusieurs cerveaux présumés de ce génocide sont décédés ou ont été déclarés inaptes à être jugés. L'ONG Human Rights Watch, dans un communiqué cette semaine, a jugé urgent de poursuivre les derniers architectes de ce drame. 30 ans après, le Rwanda a-t-il fini de panser ses blessures? Où en sont la justice et la réconciliation? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, l'immigration illégale est la question principale pour de nombreux électeurs dans l'élection présidentielle américaine de cette année. Scott Stearns examine les divergences entre les candidats Donald Trump et Joe Biden sur les mesures à prendre. Son reportage est relaté par Gabi Dorsil.
Dans les primaires du Wisconsin cette semaine, l'immigration illégale a été un thème majeur pour de nombreux électeurs, y compris pour l'entrepreneur Scott Lindemann.
Immigration, inflation,
l'immigration, l'inflation, le droit à la vie, je dirais que ce sont les trois grands thèmes pour moi.
Lindemann a voté par le passé pour le républicain Donald Trump et dit qu'il le fera de nouveau. Donald Trump a déclaré lors d'un rassemblement dans le Wisconsin qu'il préparait la plus grande expulsion de l'histoire américaine afin de débarrasser le pays de ce qu'il considère comme des personnes dangereuses.
Ils envoient des prisonniers, des meurtriers, des trafiquants de drogue, des malades mentaux, des terroristes. Ce qu'il y a de pire dans tous les pays entre dans notre pays maintenant. Ils viennent du Congo, du Yémen, de la Somalie, de la Syrie, du monde entier. Ils viennent, ils changent le pays. Ils menacent le pays. Ils détruisent le pays. Ils détruisent notre pays.
Un récent sondage Harvard Caps Harris indique que l'immigration est le principal sujet de préoccupation des électeurs américains, plus d'un tiers des personnes interrogées le plaçant au-dessus de l'économie, de la criminalité et des soins de santé. Quant au président Joe Biden, il affirme que les immigrants contribuent à l'économie américaine et qu'ils ne sont pas les animaux dangereux dont parle son adversaire.
On my first day in office as president,
le premier jour de mon mandat de président, j'ai présenté un plan complet et global pour réparer notre système d'immigration, sécuriser notre frontière, fournir une voie d'accès à la citoyenneté pour les jeunes et leurs familles, les travailleurs agricoles, les travailleurs essentiels qui nous ont aidés à traverser la pandémie et qui font partie du tissu de notre communauté. Parce que contrairement à Donald Trump, je sais qui nous sommes en tant qu'Américains.
Les partisans de Trump se souviennent de sa promesse de 2016 de construire un mur à la frontière mexicaine. Il affirme qu'il terminera le travail s'il est réélu.
Avec votre vote, je vais sceller la frontière, je stopperai l'invasion, je mettrai fin au carnage, à l'effusion de sang et aux tueries, et nous écraserons les trafiquants d'êtres humains.
La semaine dernière, une cour d'appel américaine a empêché le Texas de mettre en œuvre une loi qui criminaliserait l'entrée non autorisée dans l'État et permettrait aux juges du Texas d'ordonner l'expulsion des personnes arrêtées. Biden a déclaré aux maires américains qu'il existe un plan bipartisan au Congrès pour améliorer la sécurité aux frontières, avec plus de juges de l'immigration et d'agents pour traiter les demandes d'asile, ainsi que des technologies de pointe pour la détection de la drogue.
This bill would save lives.
Ce projet de loi sauvera des vies, il ramènera l'ordre à la frontière. Il prévoit également les fonds dont beaucoup de nos villes ont cruellement besoin. Il me donne également, en tant que président, une nouvelle autorité d'urgence ou à tout autre président pour fermer temporairement la frontière lorsque le nombre d'immigrants est hors norme afin de reprendre le contrôle de la frontière.
Les républicains de la Chambre et les représentants se sont opposés au projet de loi bipartisan sur la frontière, en partie sur la base des objections formulées par Trump.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.